Bonjour à tous, bienvenue sur RCM, Radio Collège Morsens. Je m'appelle Aaron Balilaï, je suis actuellement en classe de 4e C. Aujourd'hui, je vais vous présenter les sujets que nous avons réalisés durant cette année scolaire. Voici les thèmes que nous allons aborder. L'augmentation des devoirs, le festival aquarelle, deux portraits d'étrangers, la gastronomie thaïlandaise, la chronique du manga Soulmate et un quiz manga. Oula, attendez, c'est pas ces sujets-là. Non, je plaisante. Pour commencer, nous allons écouter Maya et Tissem qui vont nous parler de l'augmentation des devoirs à l'école et au collège. Oh mince, j'ai oublié de vous expliquer. Cette petite clochette, chaque fois que vous entendez la clochette sonner deux fois, Elliot et Kenzo vous proposeront une énigme sur le thème des mangas. Préparez vos papiers et stylos et rendez-vous sous le préau à la table prévue à cet effet. Une fois que vous aurez répondu aux trois énigmes, déposez vos réponses dans la boîte en indiquant votre prénom et votre classe. Alors comme ça, Maya et Tissem, vous trouvez qu'il y a trop de devoirs en 6e ?
Oui, mais nous n'étions pas sûrs que tout le monde partage cet avis. Alors nous avons décidé d'en parler avec les élèves.
Est-ce que tu trouves une différence entre le CM2 et la 6e pour les devoirs ?
Je trouve que oui, il y a une différence. Parce qu'avant, quand on était en CM2, il y avait des devoirs moins compliqués que la 6e. En plus, en 6e, il faut développer les devoirs, il faut plus d'écrire.
Un peu parce que en CM2 j'avais des devoirs mais pas trop alors que là il y en a tout le temps.
Oui, il y a plus de devoirs en 6e qu'en CM2, c'est vrai.
Je sais pas trop, peut-être en 6e une petite augmentation des devoirs un ou deux par jour. Puis non, sinon.
Quel effet cette augmentation de devoirs a-t-elle sur toi ?
J'ai moins de temps libre et j'arrive moins en cours parce que j'ai plus de mal avec les devoirs parce qu'il y en a trop.
Cet effet, je dirais que franchement, il devrait nous mettre un peu moins de devoirs parce que c'est quand même beaucoup de devoirs, surtout qu'il faut aussi bien décrire, comme j'ai dit tout à l'heure.
L'an dernier, j'en avais pas beaucoup, mais ça va parce qu'ils sont faciles.
Ça dépend parce que la dessous où j'ai bien le temps, du coup, je les fais tous, mais j'ai de l'étude aussi, j'ai beaucoup d'études. Mais tu vois, comme hier où j'étais allée à l'AS, c'était dur parce que du coup, je les ai fait à 19h30, je me suis couchée à 20h30. Continuer ce matin en études.
Tes parents, ils t'aident à faire ses devoirs ?
Oui, ils m'aident parce qu'ils ont le temps, mais quand ils ont pas le temps, ils m'aident pas du tout.
Oui, des fois, quand je comprends pas trop.
Non, ça dépend pourquoi, mais non.
Trouvez-vous que les devoirs sont plus difficiles qu'avant ?
Oui, parce que on découvre des nouvelles choses, surtout en SVT. Après, ça va, c'est pas trop difficile.
Finalement, beaucoup d'élèves sont d'accord avec nous. Donc, on a voulu avoir l'avis de notre institutrice de primaire.
Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Cécile Villot, je suis professeure des écoles et j'enseigne très souvent en CM1 et parfois en CM1-CM2.
Nous faisons un sujet sur les devoirs, nous voulions vous poser quelques questions.
Quel est votre ressenti sur les devoirs ?
Alors, les devoirs, si mes souvenirs sont bons, sont interdits depuis les années 50. Les devoirs écrits. Néanmoins, moi, je pense quand même qu'à partir du cycle 3, donc à partir du CM1, je pense que c'est quand même bien d'en donner un petit peu, des devoirs écrits. Du moment que les enfants peuvent les faire tout seuls, en autonomie, à la maison, sans l'aide des parents.
Vous, beaucoup de devoirs à vos élèves ?
Alors, je donne régulièrement des leçons à apprendre, de la lecture fluence, pour s'entraîner à lire de plus en plus vite. Et avec mes leçons, je mets toujours un petit exercice qui leur permet aux élèves de vérifier qu'ils ont bien compris la leçon. Et je donne aussi régulièrement des opérations à faire, addition, soustraction, multiplication.
Je trouve que c'était une bonne idée d'augmenter les devoirs en 6e.
Alors je pense que c'est inévitable qu'il y ait plus de devoirs en 6e. Et après, si vous trouvez qu'il y en a trop, il faut peut-être demander aux professeurs de se concerter entre eux pour que les devoirs soient un peu plus étalés dans la semaine.
Oui, parce que par exemple, en maths, la plupart du temps, on a au moins une leçon à apprendre et des fois des exercices à faire.
Oui, mais c'est normal que chaque professeur donne des devoirs, donc forcément, vous en avez plus qu'en 6e.
Eh bien, vu qu'elle en parle, nous avons décidé de ne pas en rester là.
Et nous sommes donc allés interviewer nos professeurs, Madame Serre, professeure de français, et Monsieur Guillaume, professeur de maths.
Est-ce que par rapport à votre matière, vous pouvez donner plus de devoirs que les autres professeurs ?
Alors, je pense que oui, je peux donner plus de devoirs, parce que la matière, c'est le français, et que pour la simple et bonne raison que on a plus d'heures avec les élèves en français. Par exemple, en 6e, on a 4h30, alors que dans les autres matières, il y a un peu moins d'heures. Et pour une autre raison très importante, c'est que le français, c'est presque la matière qui relie toutes les matières. Et donc, sans le français, le reste est très compliqué. Donc, je pense, oui, que le français fait partie des matières qui demandent peut-être plus d'approfondissement aussi en dehors des cours.
Alors, je pense que dans la semaine, je donne un peu plus de devoirs que les autres professeurs, puisque j'ai 4h30 de cours avec les 6e, donc forcément, il y a plus de devoirs que dans les matières comme l'art plastique, la musique, ou qui ont les élèves qu'une fois par semaine. Mais après, sur la charge de travail, j'ai pas l'impression de donner plus de devoirs que Monsieur Marsan, par exemple, en musique.
Attendez-vous que vos élèves aient terminé leurs devoirs pour leur en donner d'autres ?
Ben, quand je donne un devoir, je donne un délai, on écrit dans l'agenda, et c'est ce jour-là qu'on corrige ou qu'on rend le travail. Et effectivement, j'attends que le devoir soit fait, terminé, corrigé, pour pouvoir après passer à autre chose et donner encore autre chose à faire. Mais il arrive parfois que je donne plusieurs devoirs en même temps, par exemple quand il s'agit de lire un livre, et que je sais que ça va prendre du temps. Par exemple, je vais laisser 3 semaines. Il se peut qu'il y ait en même temps d'autres devoirs à faire et que la lecture du livre ne soit pas encore terminée. Mais là, c'est un cas un peu particulier.
Alors, comme généralement, je donne les devoirs du jour pour le prochain cours, les devoirs, normalement, doivent être faits à la maison. Et donc, quand ils arrivent en classe, ils sont faits. Donc, forcément, l'heure d'après, on travaille sur d'autres notions, sur d'autres chapitres. Et forcément, il y a d'autres devoirs qui arrivent. Mais je ne vais pas rajouter des devoirs si je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous donner quelque chose. Je ne vais pas rajouter le soir des devoirs par rapport à ce que je vous ai donné précédemment.
Finalement, on doit tous s'adapter, professeurs et élèves. En parlant de cours, et si on allait voir nos 5e, j'espère qu'ils ont bien travaillé sur le festival d'aquarelle qui a eu lieu en septembre 2025. Diego, vous avez rencontré un artiste, n'est-ce pas ?
Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le festival de l'aquarelle qui s'est déroulé en septembre dernier. Et je vais vous faire écouter un extrait d'interview de Jacques Léon Charrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais interviewer Malo et Diego pour vous présenter le festival de l'aquarelle qui se déroule tous les 2 ans à Morsens. Diego, peux-tu nous dire plus précisément où se passe le festival de l'aquarelle ?
Alors, bonjour Jules. Le festival se déroule principalement à Morsinx, mais aussi à Mont-de-Marsan, Saint-Julien-en-Born et à Juzan, à la maison du site.
Merci. Et Malo, peux-tu nous préciser quel genre de tableau as-tu vu ?
Salut Jules. J'ai vu des tableaux avec des paysages, des animaux, de la végétation. Il y avait aussi des tableaux avec des plantes. Il y avait des intérieurs de maisons, des ateliers. Moi, j'ai vu aussi des tableaux abstraits qui avaient plein de couleurs différentes, mais qui ne représentaient rien de réaliste.
Ok. Et Diego, combien d'artistes avait-il à peu près dans ce festival ?
Oh, il devait avoir à peu près une 50aine.
Ah ouais, quand même, ça commence à faire dans une salle.
Quand même.
Et Malo, avez-vous interrogé un ou plusieurs artistes ?
Alors oui, nous avons interrogé Jacques Léon Charrier et je vous fais écouter un extrait.
Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais questionner Jacques Léon Charrier. Alors, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Jacques Léon Charrier et je suis artiste peintre et j'utilise principalement de l'aquarelle. Et aujourd'hui, je suis en exposition avec d'autres collègues aquarellistes à Morsinx-la-Nouvelle au festival d'aquarelle.
Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier ?
Je pratique ce métier depuis 30 ans maintenant, voilà. Professionnellement donc.
Que vous apporte l'aquarelle ?
Beaucoup de plaisir. L'aquarelle, c'est une peinture, comme vous savez, qui nécessite beaucoup de concentration parce qu'on n'a pas le droit de corriger une aquarelle. Enfin, c'est très difficile à corriger. Donc, une fois que c'est fait, c'est définitif. Donc, ça suppose de la concentration, du calme. Et puis, l'avantage de l'aquarelle, c'est que on est obligé de terminer relativement vite. Si par exemple on fait de l'huile, on peut corriger à l'infini, ça peut durer des mois si on veut. L'aquarelle, on la commence et on la termine dans la même journée et donc on est obligé de mettre un point final rapide.
Quel sujet préférez-vous peindre et pourquoi ?
Alors, j'aime bien peindre les personnages. Mes sujets de prédilection sont plutôt... l'histoire de l'humanité, des réflexions sur la pensée bouddhiste, par exemple.
Elliot et Kenzo, pouvez-vous nous en dire plus sur l'organisation, s'il vous plaît ?
Oui, alors, l'année dernière, pour le festival Land Aquarelle, on a eu la chance d'interviewer l'organisateur, François Maramotti, et je vous laisse avec un extrait de l'interview.
Quel est votre rôle dans ce festival ?
Oh, un énorme rôle. Mon rôle est président de l'association.
Depuis combien de temps vous participez à ce festival ?
Disons que je participe à ce festival depuis environ 5 ans. Depuis la deuxième édition où je suis allé aider les précédents présidents et responsables, je leur ai aidé à filmer. Et puis après, en 2023, j'ai été secrétaire, mais bon, je me suis occupé avec mon épouse de tout le festival. Et cette année encore, mais là avec un bureau élargi.
Qu'avez-vous préféré lors de cet événement ?
Ce que j'ai préféré lors de cet événement, c'est justement tout ce qui a attrait aux artistes, d'une part, à savoir que ce sont des artistes déjà que l'on sélectionne, mais on les sélectionne suivant leur part de convivialité qui sont à même à amener à notre festival. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi toutes les médiations que l'on arrive à faire avec les établissements scolaires, d'ailleurs comme le vôtre, mais aussi avec le CFA, avec les écoles maternelles, les écoles tout court, mais également avec les Cigalons, l'ITMX, l'hôpital psychiatrique, la maison Alzheimer à Dax. Et c'est tous ces publics, disons des publics de jeunes comme vous, hein, et qui avaient certainement soif aussi de culture, mais également vers les publics empêchés qui n'ont pas l'habitude de venir ou d'être invités sur soit des spectacles ou alors soit des manifestations culturelles comme la nôtre.
Combien d'artistes participent à ce festival ?
Donc nous avons invité 50 artistes et effectivement, en fin de compte, il y a 46 artistes.
Elliot et Kenzo, pouvez-vous nous en dire plus sur... C'est bien, vous avez bien travaillé. Un petit moment de repos bien mérité. stylo, c'est le moment de la première énigme. Ouvrez bien vos oreilles.
Et yo tout le monde, pour la première énigme, je vais vous présenter l'histoire de Naruto. Naruto, c'est l'histoire de Naruto Uzumaki, un jeune ninja avec un rêve, devenir Hokage, le chef de son village. Il est rejeté par tout le monde parce qu'il cache dans son corps un monstre géant, Kyuubi, le démon renard à neuf queues, qui a attaqué le village avec son énergie débordante et son rêve d'être reconnu. Naruto part en mission avec ses camarades Sasuke, un ninja talentueux mais ténébreux, et Sakura qui est amoureuse de Sasuke mais soutient Naruto. Leur maître Kakashi les guide au fil des années. Naruto se bat contre des ennemis puissants, fait face à des trahisons, découvre des secrets sur son passé et forge des liens avec ses amis. Le gros de l'histoire tourne autour de la guerre des ninjas, des alliances brisées et des combats épiques. Question, comment s'appelle le démon qui sommeille en Naruto ? Je répète la question, comment s'appelle le démon qui sommeille en Naruto ?
Maintenant, apprenons l'histoire de deux étrangers arrivés en France il y a plusieurs années, Luca et Enzo. Vous avez rencontré Svetoslav au collège, expliquez-nous.
Alors bonjour à tous, je m'appelle Enzo Kofler, je suis en 4ème C, et aujourd'hui nous allons présenter le portrait des étrangers. Alors commençons et allons en Bulgarie avec Svetoslav.
Alors bonjour, merci de vous être laissé interviewer. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle Sveto, donc Svetoslav, mais comme c'est trop long, bon, on va raccourcir à la moitié, c'est plus facile pour les gens d'ici, donc Sveto. Et le pays d'où je viens, où je suis né, c'est la Bulgarie, c'est sur l'Europe de l'Est.
D'accord, merci. Et quelles sont les différences entre votre pays, la Bulgarie, et la France ?
Alors, dans mon enfance, il y a eu beaucoup, beaucoup de différences entre les deux pays. Déjà, c'était un pays communiste, donc elle était totalement sous la main de l'URSS à l'époque. Il y a une grande différence parce que vous savez, quand vous n'avez pas le droit de parler librement, que vous devez réfléchir ce que vous allez dire, parce que si vous dites quelque chose qui est contre le gouvernement, en fait, et ben vous pouvez vous retrouver en prison, tout simplement, parce que vous avez dit des choses que vous ne devez pas dire. C'est une énorme différence. Vous ici, en France, vous êtes habitué à la liberté.
D'accord. Donc, votre enfance a été dure ?
Dure, je ne sais pas. Quand on est enfant, on ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend vraiment pas compte. Mais après, quand on grandit un petit peu, quand on devient adolescent, là, on commence en fait à réfléchir et de se dire, mais il y a quelque chose qui n'est pas correct, il y a quelque chose qui n'est pas normal.
Et vous êtes arrivé en France à quel âge ?
J'avais l'âge de 23 ans, d'accord, quand je suis arrivé en France.
Et me revoilà, et maintenant partons en Albanie avec le papa d'Aaron, Ervin, l'aigle royal.
Je m'appelle Ervin Balilaï, je suis de Morsens. J'ai 42 ans. Je suis content d'être avec toi, là.
Merci. On va t'interviewer. On va poser quelques questions.
Donc, oui.
D'où viens-tu, d'abord, pour commencer ?
Moi, je viens de l'Albanie. C'est un pays qui se trouve vers l'est de l'Europe, à côté, au nord de la Grèce.
Ok. Comment s'est passée ton enfance et qu'est-ce qui t'a poussé à aller en France ?
Mon enfance en Albanie, en général, ça s'est bien passé. Je dis en général parce que c'était un pays pauvre et on n'avait pas forcément toutes les choses qu'on a ici. C'était compliqué pour mes parents de pouvoir m'habiller, de me nourrir comme il fallait. C'était très très pauvre, c'était difficile.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à partir d'ici et quand ?
Je suis venu en France à mes 17 ans, en 2000. C'est pour une meilleure vie, pour pouvoir réussir dans un pays où on peut réussir, où il y a beaucoup de capacités. Donc oui, la France, elle donne beaucoup de perspectives. Si on veut travailler et réussir, on peut réussir, contrairement aux pays pauvres. Et de plus, en Albanie, il y a eu la guerre quand j'étais jeune. Donc c'était pauvre et difficile, et dangereux pour la santé. Il y a eu pas mal de morts et c'était compliqué. La guerre des Balkans, on appelle ça.
Et du coup, comment ça s'est passé quand tu es parti et quand tu es arrivé en France ?
Et je ne parlais pas la langue française, comme beaucoup d'étrangers. Donc on apprend, on fait des connaissances. On y va à l'école, on travaille pour pouvoir réussir. C'était un peu triste de laisser les parents là-bas, la famille. Mais bon, c'est un sacrifice. C'est des sacrifices qu'on fait pour réussir.
C'est le moment de la deuxième énigme. Ouvrez bien vos oreilles.
C'est l'heure de la deuxième énigme. One Piece. One Piece, c'est l'histoire de Monkey D. Luffy, un jeune pirate qui rêve de trouver le One Piece, un trésor légendaire, et devenir le roi des pirates. Luffy a mangé un fruit du démon qui lui donne des pouvoirs élastiques, mais lui retire la capacité de nager. Il forme un équipage avec ses amis aux talents uniques, comme Roronoa Zoro, un épéiste qui possède 3 sabres, Nami, une navigatrice géniale, et Usopp, un tireur d'élite mais menteur. Sanji, un cuisinier et combattant, et bien d'autres. Ensemble, ils traversent les mers, affrontent des pirates, des marins et des ennemis puissants, tout en découvrant des secrets sur le monde. Question, écoutez bien, combien Roronoa Zoro possède-t-il de sabres ? Je répète, combien Roronoa Zoro possède-t-il de sabres ? Je répète une dernière fois, combien Roronoa Zoro possède-t-il de sabres ?
J'ai faim. C'est bien. Quoi de mieux qu'un bon repas thaïlandais ? Ulysse, qu'est-ce que tu nous as préparé ?
Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Ulysse et je suis ravie de vous accueillir dans ma chronique dédiée à la culture thaïlandaise, ici, au club radio de notre collège, à Morsang. Étant franco-thaï, j'ai à cœur de partager avec vous les traditions, les saveurs et les histoires de ce pays, la Thaïlande, qui me tient tant à cœur et qui est ma seconde nation. Aujourd'hui, dans ma chronique, nous allons plonger dans la délicieuse gastronomie thaïlandaise. La cuisine thaïlandaise est un véritable festival de saveurs, mélangeant douceur, épices et amour. Saviez-vous qu'en Thaïlande, à la capitale, Bangkok, appelée également en thaïlandais Krung Thep, la plupart des Thaïlandais mangent dans la rue. De plus, nous ne mangeons pas pour très cher, en sachant que le prix basique d'un plat typique thaïlandais pour les Thaïs coûte entre 90 et 150 bahts, soit en euros entre 2,37 € et 3,95 €. Parmi les incontournables, on retrouve le pad thaï, ou avec l'accent thaï si vous préférez, pad thaï, un plat de nouilles sautées agrémentées de crevettes ou de poulet, de tofu et de cacahuètes, souvent servi avec une touche de citron vert aussi. Il y a aussi le som tam, une salade de papaye verte épicée et rafraîchissante, qui est un véritable régal lors des journées chaudes. Remarque, en Thaïlande, il fait tout au four. Et puis après, il y a aussi les soupes, comme le tom yam kung, avec son mélange de crevettes, de citronnelle, de champignons. C'est un véritable délice qui vous réchauffe le cœur. Il y a le tom yam kai, qui est la même soupe, mais avec du poulet dedans. Après, la cuisine thaïlandaise ne se limite pas non plus aux plats salés. Il y a aussi les desserts, comme le mango sticky rice, plus communément appelé kaoniang mamuang, alliant mangue sucrée et riz gluant à la noix de coco, qui sont un véritable plaisir pour les papilles. Pour moi, ces saveurs évoquent des souvenirs d'enfance. Je me rappelle des repas en famille où ma mère préparait des plats thaïlandais traditionnels.
c'est le moment de la dernière énigme. Ouvrez bien vos oreilles.
C'est l'heure de la dernière énigme. Alors, Demon Slayer. Demon Slayer raconte l'histoire de Tanjiro, un garçon dont la famille a été tuée par des démons. Sa sœur, Nezuko, en devient une, mais reste un peu humaine. Pour la sauver et venger sa famille, Tanjiro devient un pourfendeur de démons et combat avec ses amis, Zenitsu et Inosuke, contre des adversaires puissants, dont le roi de leur espèce, Muzan Kibutsuji. Il apprend le courage, l'amitié et la persévérance en essayant de sauver sa sœur. Question : quel adversaire Tanjiro déteste-t-il plus que tout ? Je répète : quel adversaire Tanjiro déteste-t-il plus que tout ? Je répète une dernière fois : quel adversaire Tanjiro déteste plus que tout ? Dédicace à la classe.
Quand vous aurez les trois réponses, déposez votre papier dans la boîte prévue sur la table. En attendant, écoutons la chronique du manga Soulmate, présentée par Naya.
Salut, je m'appelle Naya et aujourd'hui je vais vous parler de ma passion, lire. Mais plus particulièrement, vous parler d'un manga qui s'appelle Soulmate. Soulmate est un manga chinois en trois tomes qui est un shoujo et qui parle de deux filles qui s'aiment. On appelle aussi ces mangas des manhwa, on les lit comme des romans, et il a été écrit par Wendy Lizzie et dessiné par Kerem Bing. Il est sorti en France en 2022. Un matin, l'une des filles, Yuki, se réveille dans son corps d'adolescente de 17 ans. Elle est lycéenne, mais elle a gardé son esprit d'adulte de 27 ans. Mais quand elle se retrouve dans son corps de 27 ans, elle a son esprit de 17 ans. Tout est inversé. Quand elle réalise qu'elle est dans son corps d'enfant, elle doit repasser ses examens, le Gaokao, qui était l'équivalent du bac, et elle se retrouve avec un téléphone à clapet, son uniforme d'école et sa mémé qui lui dit de se dépêcher. C'est ainsi que commence une drôle d'aventure épique et très passionnante, avec des émotions, de la timidité à révéler ses sentiments. Ce que je trouve original, c'est qu'elle prévoit déjà les réactions de Yuanzi, sa future copine. Elle connaît déjà tout d'elle, mais celle-ci ne sait rien. C'est un livre que je vous conseille de lire car il nous donne un regard différent sur les couples homosexuels et qui, à cause de sa différence, subissent des préjugés des autres élèves car ils trouvent ça étrange et hors du commun. Bref.
Un peu de musique avant les résultats. Résultats. Les gagnants sont attendus au CDI. Sur ce, je vous dis à l'année prochaine et merci de nous avoir écoutés. Oui.